J'ai choisi, évidemment, comme thème, de parler de la résurrection. Ça semblait à propos, évidemment, puisque Jésus est ressuscité. Ce fameux dimanche de Pâques, ce fameux dimanche matin, quand les femmes ont été au sépulcre, elles ne l'ont pas trouvé. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce tombeau-là, mais ça pouvait ressembler à quelque chose dans ce style-là, même si ça a été un petit peu consolidé avec le temps. On creusait dans la roche des sépulcres et on mettait à l'intérieur ceux qui étaient décédés. Donc, on va lire quelques versets dans les évangiles et finalement, les quatre évangiles parlent de la résurrection. Ça vous étonne ou pas? Ben non, hein. Forcément, les quatre évangiles parlent de la résurrection. Et dans ces quatre évangiles, il y a différents aspects que j'ai mis au travers de cette première diapo à l'écran. Et je le cite également pour vous. Souvenez-vous tout de même que le fait que Jésus-Christ avait annoncé à l'avance qu'il allait ressusciter d'entre les morts, il parlera de la croix, il parlera de son sacrifice, de sa mort, mais il parlera aussi de sa résurrection. Et très souvent, les disciples étaient assez à côté de ce discours-là. Ils ne comprenaient pas le discours. Ils auraient bien voulu le saisir, le comprendre, mais ils n'y arrivaient pas. C'est quelque chose qui vraiment leur échappait. Ils ne saisissaient pas. Et quand ils ont vu la croix, quand ils ont vu Jésus arrêté, et quand ils ont vu leur sauveur, leur rédempteur, celui qui avait fait tant de miracles, celui finalement qui a toujours échappé à tous les pièges, on a voulu l'arrêter, mais quantité de fois, et à chaque fois il s'en est sorti, quand ils l'ont vu pour de bon arrêté, jusqu'à clouer sur la croix, ça les a perturbés pour pas mal. Pour pas mal de temps, ils ont été assez décontenancés. Et Jésus leur avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Et il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour. Alors on est à la première partie, et on en parlait la semaine dernière, de la croix et de tout ce qui a amené Jésus à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche, il s'est laissé faire, il ne s'est pas révolté, il n'a pas été contre les contredisants et les contradicteurs. Cependant, il fallait aussi d'autres preuves, la preuve de sa résurrection. Évidemment, il ne suffisait pas de dire qu'il allait ressusciter. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, nous l'avions évoqué la semaine dernière. Quand Jésus a été mis au sépulcre, il nous est dit que les chefs religieux ont été vers Hérode, vers Pilate, pardon, en disant, il a annoncé qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Or, ça, c'est pas possible. Mais afin qu'il n'y ait pas une supercherie, afin qu'il n'y ait pas un coup fourré, nous te demandons de mettre des gardes devant la pierre pour que personne de nuit ne vienne dérober le corps de Jésus en proclamant ensuite, il est vivant, il est ressuscité. Cette deuxième imposture serait pire que la première. Ce à quoi le gouverneur dira, vous avez une garde, gardez-le vous-même. Alors ils ont scellé la pierre. Ils ont mis des gardes devant. Ça n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Amen. Amen. Ça n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Et les soldats ont été tellement confus face au tombeau vide et ne comprenant pas ce qui était arrivé, qu'on finira par les payer en disant, si l'on vous demande qu'est-ce qui s'est passé, vous annoncerez que des gens sont venus de nuit enlever son corps et que vous n'avez rien vu, vous dormiez à ce moment-là, etc. Et on vous couvrira. Quel mensonge, quelle tromperie. Mais Jésus est ressuscité. Alors on lit ensemble ce que vous avez à l'écran, Jean chapitre 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie se rendit au sépulcre de grand matin. Matthieu 28, verset 2. Et il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Tous les événements s'imbriquent les uns dans les autres. Hein. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 6. Les femmes sont là, les disciples viendront. Complètement circonspect, peut-être même un peu affolé à la vue de ces anges, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Et enfin, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 5, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimés, ne cherchons pas ce matin parmi les morts Jésus parce que Jésus est vivant. Ne le cherchons pas dans la tombe, ne le cherchons pas dans le sépulcre, il est vivant. Et enfin, En dernière ligne, il y a ce par quoi nous avons commencé le culte, cette lecture dans l'évangile de Jean, où on posera la question, mais pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Même Marie n'a pas reconnu Jésus, alors que Jésus est devant elle, même cette femme n'a pas su qui était en train de lui parler, elle l'a même confondu en disant un ouvrier, un jardinier, quelqu'un, où as-tu mis le corps? Qu'en avez-vous fait? Il a fallu que Jésus l'appelle par son nom, pour que là, ses yeux s'ouvrent et que là, elle réalise que c'était Jésus. Soit dit en passant, c'est juste une parenthèse, ça fait du bien quand Dieu nous appelle par notre nom, n'est-ce pas? Non? Quand Dieu nous parle, quand Dieu vient vers nous frapper à la porte de notre cœur et quand il nous dit « Eh oh Stéphane, je suis là hein », on ne s'affole pas, on reste calme, ça fait du bien hein, quand Dieu nous parle ainsi. Alors, qu'a-t-on fait de Jésus qui a pris son corps? Ça, ce sont les réalités auxquels ces gens-là sont confrontés. Et la preuve, c'était tellement improbable, tellement impossible, que même s'ils avaient la réalité en face des yeux, ils ne la voyaient pas. Je reste persuadé que très souvent, Dieu a fait des choses face à nous, devant nous. Nos yeux étaient ouverts, on ne l'a même pas vu. Nos yeux étaient grands ouverts, on ne l'a même pas cerné. On ne l'a même pas saisi, on n'a même pas réalisé ces choses-là. Alors, béni soit Dieu, il fallait que Jésus ressuscite, et les bonnes raisons pour lesquelles il fallait que Jésus ressuscite, c'est que c'était là le triomphe, vous l'avez compris, le triomphe de Dieu sur Satan et le triomphe de la vie sur la mort. Je voudrais vous lire, vous n'avez pas tous les textes en intégralité à l'écran, alors je voudrais qu'on fasse cette lecture dans Colossiens chapitre 2, et à partir du verset 14, les textes se passent de commentaires, donc autant les lire et on n'a pas besoin de beaucoup revenir là-dessus. Souvenez-vous le triomphe de Dieu sur le diable, le triomphe de Jésus sur Satan. Le diable est venu séduire, tenter Jésus alors qu'il était dans le désert au début de son ministère. Et il nous est dit qu'à chaque fois Jésus a bien répondu, à chaque fois Jésus a eu les mots. Et la Bible dit que Satan l'a laissé jusqu'à trouver un moment favorable, jusqu'à trouver le moment où il pourra le piéger. Eh bien, je suis persuadé que quand Satan a vu Jésus cloué sur la croix, donner sa vie, mourir, rendre son dernier souffle, puisque quand même il va crier une dernière fois « tout est accompli » et il va expirer, il va mourir, on va le mettre au sépulcre, je suis persuadé que le diable était bien content de ce moment-là, mais joie de courte durée, parce qu'il y avait une raison à sa mort. Il fallait qu'il meure pour vaincre la mort. Il fallait qu'il meure pour revenir de la mort et dire au monde entier qu'il était le seul capable de vaincre la mort. Colossiens chapitre 2 et verset 13, la fin du verset 13. « Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Livrées en spectacle, spectacle public. Jésus meurt publiquement et Jésus ressuscite aux yeux de tous. D'ailleurs, plus tard, des apôtres pourront dire ceci, il est apparu aux femmes, il est apparu aux 12, il est apparu à 500 frères à la fois et il m'est apparu à moi aussi. L'apôtre Paul était un de ces témoins de la résurrection. Un peu plus loin, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 9, je reviens au début de la phrase, verset 8, or, Romains chapitre 6, verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 20. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier, et nous suivons derrière. » Il est le premier à être ressuscité des morts et nous suivrons ensuite. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er et verset 10. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 10. On va remonter un petit peu pour que la phrase soit plus cohérente. Verset 9. « Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été destinée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort. » Il l'a vaincu et il l'a aussi détruite. Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes nés de nouveau si vous avez fait la paix avec Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Vous êtes morts au péché, aux offenses, on va le voir ensemble, et vous êtes ressuscités d'entre les morts. Donc, si vous êtes enfants de Dieu, si vous êtes dans ce lieu pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, sans doute avez-vous vécu cela et en tous les cas, vous pouvez le vivre si ce n'est pas fait. Vous êtes nés de nouveau, vous marchez en nouveauté de vie, disait l'apôtre Paul. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on va s'arrêter sous trois aspects sur le fait de Jésus ressuscité. Jésus ressuscité a entraîné des conséquences, le fait que Jésus ressuscite. Et parmi ces conséquences, il en est quelques-unes, et notamment, au travers de ces textes, vous allez mieux le comprendre, il y a comme conséquence une vie nouvelle. Nous avons une vie nouvelle grâce à Dieu. Qui regrette sa vie d'avant lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur? Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette absolument pas. Qui pourrait imaginer qu'avant, c'était mieux? Il se passe quelquefois, c'est assez troublant cela et assez surprenant, se passe quelquefois qu'avec le temps qui passe, les années qui passent, ça fait tellement longtemps que Dieu nous a sortis de nos douleurs, de nos peines, de nos difficultés, qu'on en oublie même ce qu'elles étaient. On a oublié les nuits blanches, on a oublié les angoisses, on a oublié la dépression, on a oublié, parce que c'était il y a fort longtemps, il y a tellement longtemps. Et c'est curieux, comme le fait d'avoir oublié ce qu'était notre vie d'avant, on finit quelquefois par se lasser de sa vie de maintenant. On finit par être pas totalement comblé, on va le voir, pas totalement, bien, satisfait de ce que l'on a. Et on se dit, oh, finalement, est-ce que j'ai bien fait? Finalement, est-ce que ça valait le coup? Finalement, est-ce que c'était intéressant de donner ma vie à Dieu? J'en sais plus trop rien. Et puis peut-être que je suis passé à côté de tellement de belles choses. Non, mon frère, ma sœur, non, non. La vie d'avant n'était pas belle. La vie d'avant était peine, la vie d'avant était douloureuse, la vie d'avant nous accablait, la vie d'avant n'était pas heureuse, certainement pas. Je crois que, évidemment, aujourd'hui, puisque nous avons une vie nouvelle, nous sommes soumis à certaines contraintes, à certaines limites, assurément. L'apôtre Paul disait aux Romains, il faut le lire dans votre Bible si vous voulez suivre le texte avec moi, au chapitre 6, et à partir du verset 4, on va poursuivre la lecture, c'est intéressant, jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul parle du baptême, le baptême d'eau. Et il fait un parallèle, ce que le baptême d'eau a apporté et quel est, l'engagement qu'il y a derrière le baptême d'eau, mais en quoi nous sommes similaires quelque part à Jésus. Christ, verset 4, « Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort et libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La croix a payé la rançon. La croix a payé la rançon. Jésus, en donnant sa vie à la croix, nous a offert la justification. Nous sommes pardonnés, nous sommes affranchis. Il nous a donné le pardon et la résurrection de Jésus nous donne la possibilité et l'assurance de le vivre, ça, de vivre le pardon et de vivre la réconciliation et de vivre la justification. C'est parce que Jésus est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on attendrait toujours quelque chose. Mais Jésus est ressuscité. On n'attend plus, on prend, on saisit et on reçoit. Vous avez vu dans le texte que j'ai partagé, il y a cette notion de ce qu'était notre vie avant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi quand il est dit que celui qui est mort, finalement, il ne pêche plus. Vous êtes d'accord avec ça, hein ? Si vous aviez un voisin irascible qui vous enquiquinait toutes les semaines, qui frappait au mur parce qu'il y avait toujours trop de ceci, trop de cela, et puis malheureusement, vous apprenez qu'il est mort. Mais normalement, il ne vous embête plus, hein ? Vous êtes débarrassé. Quelquefois, pour nous-mêmes, c'est un petit peu la même chose. On a des fragilités, on a des quelquefois même des colères, on a des situations qui vont pas bien. Ça peut arriver, évidemment, ça peut arriver. Mais le fait est que c'est pas parce que on vit sur la terre et qu'on garde cet aspect humain et physique, c'est pas pour autant que nous ne sommes pas morts au péché. C'est la volonté de Dieu que l'on réalise que l'on est mort au péché. Et si on est mort au péché, eh bien, la vie, elle est différente. Quelqu'un, un jour, avait été interpellé parce qu'il avait mal réagi dans une situation particulière. Il s'était mis en boude, il s'était mis en colère, il avait disputé tous ceux qui étaient autour de lui. Et parmi ceux qui étaient autour de lui, il y en avait un qui savait que, parce qu'il leur avait rendu témoignage, qu'il était devenu croyant, qu'il était devenu chrétien, que Dieu avait changé sa vie, qu'il était devenu raisonnable, qu'il ne se mettait plus jamais en colère. Là, il l'attendait. Hein. Il dit, dis-moi, il y a quelque temps, tu ne m'as pas dit que tu t'étais fait baptiser et que ta vie, elle avait changé, que c'était différent. Tu m'avais même dit, si je ne me trompe pas, que quand tu t'étais fait baptiser, sur ce texte-là, eh bien, c'est comme si ta vie d'avant était morte. C'est comme si tu avais été noyé. Et là, il s'est trouvé bien embêté. Il a dit, aïe, aïe, aïe. Alors, il lui est venu un éclair de génie. Je ne suis pas sûr que c'était un bon génie, mais bon. Il dit, oui, c'est vrai, je t'ai dit ça. Mais en fait, tu sais ce qui s'est passé ? Quand j'ai plongé dans les eaux du baptême, la vieille nature, je l'ai noyée. Enfin, je pensais l'avoir noyée, mais elle savait nager. C'est piégeux quand même. Hein ? Elle est sortie. Je ne m'en suis pas rendu compte. Non. Si on est enfant de Dieu, on est mort au péché. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, et on va pas essayer de s'en persuader pour dire « Ah, je suis quelqu'un de formidable ». Ça n'a rien à voir, mais la réalité, c'est ça quand même. Dans l'épître de Paul aux Romains, je vous le rappelle, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 1er. Est-ce que je peux vous rappeler également ce qu'il est dit un petit peu plus loin ? Verset 31 jusqu'au verset 34. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Ça fait partie des conséquences. On ne peut pas vous accuser. Dieu vous a justifié. On ne peut pas vous condamner. Parce que vous êtes mort, mais vous êtes ressuscité avec Christ, parce que Christ est ressuscité. Et puis dans la première lettre de Pierre, il y a plusieurs passages, pas que ce que j'ai résumé à l'écran. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14. Il est dit ceci, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 14. « Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Verset 18. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez été régénérés, frères et sœurs. Vous avez été renouvelés. Vous avez été transformés par sa grâce. Alors dans ce passage, il est question de plusieurs choses. Il est question notamment de ce qu'on était avant, de ce qu'on n'est plus maintenant, de cette vaine manière de vivre. Alors dans le contexte, c'est un contexte de religieux, c'est un contexte de religion. L'apôtre Pierre est en train de dire à ces gens issus du judaïsme, ne retombez pas dans le judaïsme, vaine tradition de vos pères, vaine redite de vos anciens, de vaine manière de vivre. Ça ne les a pas amenés au salut, ça ne les a pas amenés à une vie changée, mais c'est l'évangile qui vous change. Alors ne retombez pas dans ces travers. Et ça va pour toutes les religions, bien évidemment. On est facilement habitué et on a facilement tendance à retomber dans des préceptes, dans des principes. Sont-ils bibliques? Est-ce bien cela? La marche par la foi? Ceci étant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et il y a une règle de vie, bien évidemment, c'est la Bible. Il y a une règle de vie, c'est la Bible. Et on ne peut pas faire sans et on veut faire avec. Alors la conséquence, première conséquence de Jésus ressuscité, souvenez-vous de cela, tout a été payé. Vous avez la possibilité, l'assurance de pouvoir le vivre avec certitude. Vous êtes né de nouveau, vous êtes mort au péché et vous vivez pour Christ. La deuxième chose, ce sont les fruits que l'on peut en goûter dans cette vie nouvelle. Et dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et versets 5 et 6, il est dit « Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Et dans les trois petits points, il est dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Et puis ensuite, il est dit « L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, tandis que l'affection de la chair, c'est la mort. » Donc, pour nous, le chemin est agréable quand même, puisqu'on parle d'aimer les choses spirituelles, d'aimer les choses de Dieu. Et si on aime les choses de Dieu, ce sera la vie et ce sera la paix. Ça, ce sont les fruits bien-aimés que nous pouvons expérimenter, que nous devons avoir dans notre besace, dans notre cœur, dans notre réserve. La joie, la liberté, la paix, la sérénité. Nous sommes affranchis, frères et sœurs. Vous êtes affranchis. C'est pas possible. Qu'un chrétien vive insatisfait. C'est pas possible. On n'aura jamais tout. Hein. On n'aura jamais tout. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est pas être insatisfait, c'est juste être réaliste. On n'aura jamais tout. Mais d'un autre côté, faut-il pour autant négliger le fait que Jésus nous a tout donné ? J'aime beaucoup, beaucoup ce passage de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est résumé, c'est très bref à l'écran. Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Je vous le lis en entier. « J'ai appris, disait-il, à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. » Vous ne croyez pas que ça, c'est l'antidote à l'insatisfaction ? Non ? Ce n'est pas le remède à l'insatisfaction chronique. Ce n'est pas le remède à la frustration en disant « Ah, ma vie, elle n'est pas belle. Ma vie, elle n'est pas formidable. » Ce n'est pas comme ça que je voyais la vie chrétienne. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais que Dieu transformerait ma vie. Mais la vraie transformation, elle nous attend, bien-aimés. Non ? Elle est là-haut, la vraie transformation, c'est pas vrai ? Non, ouais. Si, elle est là-haut. La vraie transformation, elle est là-haut. Le meilleur est à venir encore. Ça signifie quoi tout cela ? Ça signifie qu'il faut être réaliste sous plein des aspects. Voilà pourquoi je l'ai résumé comme ça. Je sais vivre, j'ai appris, je puis tout. Bien-aimés, sachons vivre, apprenons et soyons victorieux en Jésus-Christ. Le plus important, là encore, l'Écriture nous l'enseigne, finalement, c'est au travers de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, elle est très, très, très dogmatique, évidemment. Mais le chapitre 11, il n'est pas formidable, le chapitre 11. Vous savez ou vous ne savez pas, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on lui a donné un titre, c'est le chapitre de la foi. Donc, on va aller au chapitre 11. Regardez avec moi ce qu'il est dit au chapitre 11. On ne lit pas du début, bien évidemment. On lit du verset 13 au verset 16. On vient de parler de quelques figures de l'Ancien Testament, patriarches. On parle d'Abel, on parle d'Enoch, on parle de Noé, on parle d'Abraham, on parle de Sarah, on parle de leurs enfants, Jacob, on parlera plus tard d'Isaac. Et là, il y a un intermède. Et il est dit ceci, verset 13, Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Vous entendez ? Elles étaient promises. Ils ne les ont pas obtenues. Aujourd'hui, ils seraient gilets jaunes. Non ? Ben oui, c'est pas normal. C'est écrit, je ne l'ai pas. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant, et c'est là qu'est la clé, bien-aimé, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient en vue, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Ça nous ramène à l'apôtre Paul, 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, sommes-nous étrangers et voyageurs ou sommes-nous bâtisseurs? Est-ce que j'accepte de n'être qu'un voyageur pèlerin sur la terre? Ou est-ce que j'ai décidé que ma vie ici-bas, elle devait être parfaite? Donc je vais bâtir pour ça. Je vais tout faire pour ça. Il faut qu'elle soit réussie sous tous les angles. Il faut que je ne manque de rien. Il faut que je sois comblé. Il faut que je sois satisfait. Et je vais même mettre Dieu dans mes projets. Et il faut qu'il m'accorde cela. Parce que s'il ne m'accorde pas cela, c'est qu'il m'a abandonné. Hé, frères et sœurs, on peut aller très loin avec un raisonnement comme ça. Et on peut aller très loin de la foi avec un raisonnement comme ça. Et on peut très vite s'éloigner de l'enseignement biblique. Je vous en donne un exemple qui court depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est ce que certains ont appelé un évangile ou l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire que vous êtes chrétien, mais vous allez voir, ça va changer dans votre vie. Ça va être boosté et vous n'allez manquer de rien. Vous allez être prospère dans tous les domaines. Vous ne serez jamais malade, vous aurez de belles voitures, un super boulot, votre famille sera parfaite, etc., etc., etc. Mais ça, ce n'est pas la vie réelle. C'est un mensonge. La Bible ne parle jamais de cela. Regardez Hébreux chapitre 11. On va y revenir dans un moment. J'avoue que ce n'est pas le paragraphe le plus sympa pour vous, mais bon, malgré tout, ce sont les fruits. Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? C'est quand même à cela qu'on a été appelé au chapitre 4 de sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Donc, étrangers, voyageurs ou bâtisseurs? Certainement étrangers, voyageurs, pèlerins, avec des hauts et des bas, avec des jours faciles, avec des moments compliqués, avec des choses excellentes et avec d'autres qui vont être récurrentes et douloureuses, évidemment. Mais on voit et on salue de loin les promesses, c'est comme si elles étaient dans nos cœurs, c'est la même chose que si nous les vivions maintenant. Un jour, c'est comme 1000 ans, ça passe tellement vite. Demain, dans quelques instants, nous serons au ciel et nous partagerons l'éternité avec Christ. Et tout sera oublié de nos larmes et de nos peines. Mais que disait l'apôtre Paul ? Philippiens chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et dans la suite, il dit, j'ai appris, à vivre dans l'abondance, dans la disette, facilement, difficilement. En tout et partout, j'ai rendu grâce à Dieu parce que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça la vie chrétienne. Et ça, ce sont de bons fruits, bien-aimés. Ce sont des bons fruits parce que Dieu nous fait grâce dans ces moments-là. Vous vous souvenez ce que Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 ? Manifestement, certains imaginaient que maintenant qu'ils avaient Jésus, la vie allait être beaucoup, 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 beaucoup plus simple. Et Jésus va leur dire, vous devez être comme des serviteurs, servantes et serviteurs. Qu'est-ce qu'on attend d'un serviteur ? Et dans l'évangile de Matthieu 25, au verset 21, il explique que le serviteur, c'est celui qui toute la journée va aller bosser dans les champs, et quand il va rentrer, il ne va même pas avoir le temps de s'asseoir. Parce que son patron va lui dire, oh, tu me prépares à manger maintenant, j'ai faim. Il devra lui préparer à manger. Et une fois que tout aura été débarrassé, ce sera son moment à lui, et c'est à ce moment-là qu'il pourra se reposer et manger. Et bien qu'un tel serviteur soit content de son sort, parce qu'il a fait juste ce qu'on lui a demandé de faire. Et même s'il a été parfait dans tout ce qu'il a fait, qu'il se considère encore comme un serviteur inutile. Waouh ! C'est dur, hein ? Eh, dites, pasteur, moi je ne suis pas n'importe qui quand même. Hein. Je veux bien être serviteur, mais je ne veux pas être méprisé. Hein. Je suis un serviteur, une servante du Seigneur, un serviteur du Seigneur, mais j'aimerais bien avoir le retour de ce que je fais. Ce n'est pas ça ce que Jésus nous a montré. Regardez-le à la croix. Ce n'est pas ce qu'il nous a montré. Il a livré sa vie. Se dépouillant de sa gloire, il est descendu comme un humble serviteur. Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Être un vrai serviteur, ce n'est pas rêver, c'est faire. Ce n'est pas rêver. Il y a des gens qui rêvent plein de choses. Ils ne les vivent jamais. C'est faire, faire. C'est être un état d'esprit, mais c'est faire également. Et c'est obéir avec rigueur, avec constance. Et c'est obéir également avec bonheur. Bien aimé, je crois qu'il faut laisser le ciel pour plus tard et il faut assumer la terre. Hein. Il faut assumer la terre quand même. Hein. Parce que tous les jours, et on l'a entendu dans pas mal de louanges ce matin, il y a des moments plus heureux que d'autres. Alors on arrive à la fin de ce paragraphe un peu ouais, sous pression quand même. On va le lire, hein, je suis obligé de vous le lire cela. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, on va décoller, c'est formidable. Ce qui se passe du verset 32 au verset 35, c'est ce que je veux vivre. J'espère que c'est ce que vous voulez vivre. Hébreux chapitre 11, verset 32. « Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » C'est ce que je veux vivre. Amen. Oh, vous ne voulez pas vivre ça, vous ? Moi, je veux le vivre, ça. Mais peut-être que dans ce parcours exceptionnel, il va y avoir quelques vallées. Et on continue. Pendant que certains recouvraient leur mort par la résurrection, ou fermaient la gueule des lions, ou mettaient en fuite des armées étrangères, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Ils n'ont jamais abjuré, jamais renié la foi, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Si Dieu les avait exaucés à ce moment-là, on ne serait pas là, nous, aujourd'hui. On n'aurait peut-être jamais existé. Le monde aurait déjà été roulé comme un manteau, et puis les nouveaux cieux, la nouvelle terre, seraient déjà venus. Mais Dieu nous voyait. et Dieu avait un avenir pour moi, pour vous, et pour qu'ils n'aillent pas dans le ciel, un monde meilleur sans nous, eh bien ils ont accepté ces douleurs et ces peines, parce qu'il fallait que le temps passe, et qu'on ait le temps d'arriver, et qu'on ait le temps d'entendre le message et d'être sauvé. Alors bien-aimés, des fois il faut laisser le ciel pour plus tard, et il faut assumer la terre, on ne peut pas faire autrement. Dieu a donné le meilleur au monde, il a donné son Fils, il a donné la croix, il a donné son amour, il a donné son Église au monde. On est là pour briller, hein. On est là pour faire connaître le salut et la délivrance. Si on ne brille pas, ceux qui meurent n'iront jamais au ciel. La résurrection, ce sera pour l'enfer. Ils ressusciteront pour le jugement dernier, mais c'est calamiteux. On veut qu'ils ressuscitent pour la remise des récompenses, on veut qu'ils ressuscitent pour le ciel. On veut qu'ils ressuscitent parce qu'une place leur est préparée là-haut dans le ciel. Alors, béni soit Dieu, parce que nous portons des fruits tous les jours qui témoignent de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, continuons à vivre ainsi et ayons toujours, et je conclue avec cela, cette belle perspective, c'est le ciel. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous avez tout ce qui concerne la résurrection. Pratiquement tout le chapitre en parle. Et on va parvenir sur tout cela, bien évidemment, mais il y a pas mal de phrases très, très pertinentes, évidemment très, très intéressantes. Je vous en livre quelques-unes comme cela. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Quelques-uns parmi vous, des croyants qui ne croyaient pas à la résurrection. Ça craint quand même, hein? Eh oui, soit on est croyant, soit on ne l'est pas, on y croit. Et puis, il insiste, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Et si vous êtes encore dans vos péchés, vous mourrez dans vos péchés. Et si Christ n'est pas ressuscité et qu'on dit qu'il est ressuscité, on est des menteurs. Il développe tout ça, hein. On est des menteurs, on ne dit pas la vérité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors que j'essaie de me persuader que oui, c'est vrai, mais alors je suis le plus malheureux de tous les hommes. C'est résumé comme ça la résurrection, c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, malheur à nous, pauvre de nous, on serait tellement triste. Vous vous rendez compte, vivre toute notre vie dans un mensonge, vivre toute notre vie dans un espoir qui est vain, qui n'existe pas, mais ce serait abominable cela. Non, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, et nous en saisissons les fruits, nous ressentons sa présence, nous sommes vivants, nous avons été ressuscité avec Christ, comme il est ressuscité d'entre les morts, nous sommes nés nouveauté de vie. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44, c'est ce que vous avez à l'écran. Dans d'autres versions, c'est dit de cette manière-là, nous attendons l'enlèvement, nous attendons le ciel, c'est la finalité, hein, tout cela, ce sera là-haut, au ciel. Pour l'instant, nous sommes corruptibles, le corps est semé corruptible, la chair, l'être humain est corruptible. Bientôt, nous serons incorruptibles parce que nous revêtirons un autre corps spirituel. Méprisable, d'autres versions disent humble, sans apparence, dans le mépris et dans le déshonneur. Glorieux, d'autres traductions disent rayonnant de beauté et de gloire. Infirme, ça signifie malade, faible. Ressuscite, plein de force, ça signifie saint. Ça signifie vigoureux, après avoir été régi par des facultés psychiques, si vous voulez. Le corps est semé animal, il ressuscite spirituel. C'est un corps spirituel qui sera régi par l'Esprit de Dieu qui nous attend, frères et sœurs. Ça, c'est l'avenir. Alors, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, persévérons dans cette belle espérance. Gardons dans nos cœurs cette réalité. Vous êtes nés de nouveau. Alors vous marchez en nouveauté de vie. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, les choses anciennes sont passées. Personne n'a le droit de te culpabiliser. Personne n'a le droit de mettre un joug sur ta vie. Ce n'est pas possible. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand quelquefois la terre est difficile à assumer, et quand quelquefois les épreuves sont là et que la tempête fait rage, je veux me souvenir que je suis ressuscité avec Christ et qu'ainsi je suis caché en lui. C'est ce que dit la Bible. Caché en lui, protégé. Psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Alors encore un peu de temps, disait l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Je termine pour de bon, avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ça ne vous étonnera pas que c'est le dernier verset du chapitre. Ça clôt ce chapitre sur la résurrection. Ça met un point d'honneur sur la fin qu'il nous faut saisir derrière ce que signifie la résurrection. La mort a perdu. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Tout cela sera jeté en enfer avec le diable, les démons et tous ceux qui n'auront pas voulu de la grâce. Et verset 58, il est dit ainsi, « Mes frères, frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. » Mes frères, mes sœurs, soyez fermes, inébranlables et travaillez de mieux en mieux sur la terre. Travaillez de mieux en mieux au royaume de Dieu et ne soyez pas insatisfaits. Ne soyez pas frustrés, Dieu a fait le meilleur pour vous. Et le meilleur, nous l'avons dans nos cœurs, nous l'avons en vision devant nos yeux. Et nous savons pour qui nous vivons, et nous savons pourquoi nous vivons, et nous savons pourquoi et pour qui nous intercédons, nous prions, et nous savons comment nous pouvons lui plaire. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Amen. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Quel privilège et quel bonheur d'être à toi, Seigneur. Quel bonheur, oui, de t'appartenir. Quel bonheur d'avoir fait la paix avec toi un jour. En fait, c'est toi qui, dans ta grâce, nous a cherchés. C'est toi qui nous a permis de te trouver de deux et deux, et de trouver la grâce et de trouver le pardon. Si tu n'étais pas venu vers nous, oh, malheur à nous, malheur à nous. Serions dans la détresse et dans les tourments, mais tu as tout changé. Alors je te bénis, je te rends grâce, je te loue pour ta fidélité, pour ta bienveillance. Merci pour ces instants, merci pour ta parole. Je prie qu'elle soit comme une semence de vie, une semence de vie, qu'elle soit plantée dans le cœur, mais qu'elle lève et qu'elle porte de tellement beaux fruits. Nous sommes à toi et nous voulons te plaire en tout temps, en toute chose. Que ton nom soit loué pour ces instants. Raccompagne-nous dans ta paix, raccompagne-nous dans ta joie, raccompagne-nous dans la liberté, raccompagne-nous dans le bonheur, raccompagne-nous dans la grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, merci. À toi revienne toute la gloire. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.